France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est à la fois une grande figure de l'alto français, voire franco-belge, un grand chambriste, membre du Quatuor Isaïe pendant les 30 ans de son existence, et puis aussi un grand enseignant, que ce soit à Bruxelles, à Paris ou à Genève. Miguel da Silva est de retour, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Le Brahms de la maturité, trio opus 114 et les deux sonates de l'opus 120 avec Xavier Philips et François-Frédéric Guy. C'est votre dernier disque, il vient de paraître, votre nouveau-né, né il y a un mois. Mais si mes indicateurs ont bien fait leur travail, ce n'est pas votre seul nouveau-né, vous êtes jeune papa.
Ah, tout à fait.
Félicitations.
Tout à fait. Écoutez, alors,
les nuits sont courtes en ce moment. Merci d'être là en direct.
Absolument. Sont entrecoupées de moments merveilleux, précieux.
Ça fait voir la vie différemment, surtout dans une période comme ça, quand on est un musicien qui a eu une vie forcément perturbée depuis un an.
Alors, je crois que il y a rien de plus important, rien de plus beau que d'avoir des enfants. Je me souviens avec émotion de mes deux filles que j'ai eues en 91 et en 98, Clara et Juliette, mes deux princesses. Le fait de repartir dans des biberons et dans une éducation, quoi, d'être responsable de cela. C'est oui, ça me bouleverse. Oui, c'est une chose importante. Maintenant, en sortie du Covid, moi, le premier confinement, j'ai plutôt bien vécu parce que c'est cette vie de voyage, de stress quand même. D'un seul coup, j'ai pu me poser, m'arrêter pendant plusieurs semaines et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Après, le public manque, la scène manque, tout manque. Et puis après, gérer le stress des jeunes étudiants, ça, c'est une chose très difficile.
On va en parler. Il n'est pas encore étudiant, votre petit, il a un mois, vous le jouez la berceuse de Brahms.
Absolument, je joue la berceuse de Brahms, je joue du Bach, il aime beaucoup ça. Oui, on compte encore sa naissance, sa vie en jour, il a 29 jours.
Eh bien, Brahms, non pas la berceuse, mais plus passionné, c'est l'Allegro Appassionato de la sonate opus 120, numéro 2.
Thank you.
Et voilà le thème qui repart, le deuxième mouvement Allegro appassionato de cette sonate, opus 120 numéro 2 dans la version alto et piano. Ça ne vous aura pas échappé, puisque Miguel da Silva est altiste et que François Ferrigui est pianiste. Miguel da Silva d'ailleurs, parce que c'est une sonate qui existe aussi à la clarinette, vous avez fait de la clarinette
Tout à fait, j'ai commencé par la clarinette, oui, quelques mois. C'est pas ce que j'ai fait de plus brillant dans ma modeste carrière musicale, mais j'ai commencé la clarinette en effet à Reims avec un professeur qui était pas du tout sympathique et ça marchait tellement pas que il y avait une sorte de sifflement toujours sur la clarinette à cause d'un petit accident de vélo et le directeur Jacques Murgier de l'époque, grand directeur à Reims, m'a présenté la professeure d'alto parce que l'alto, la clarinette, même tessiture, même couleur sonore. Et là, j'ai jamais quitté cette dame.
Et la voici, vous parlez de l'alto au féminin?
Non, je parle de mon professeur.
Ah, d'accord.
Madame André Propage.
D'accord.
Non.
un moment d'absence.
Mon alto est transgenre.
Miguel da Silva, jamais enregistré ces deux sonates, alors que c'est des grandes œuvres du répertoire pour l'alto. Pourquoi y venir maintenant, là?
Alors, pourquoi y venir maintenant? Parce que je voulais avoir joué une bonne partie de la musique de chambre de Brahms, voire toute. J'ai joué les quatuors à cordes avec le quatuor Isaïe, les quatuors avec piano avec le quatuor Isaïe et d'autres partenaires, les sextuors que j'ai enregistrés, un en tout cas. Et il me paraissait important de connaître l'intérieur de cette musique, de connaître, vous savez, quand on est altiste, on est au centre des choses. Je dis pas qu'on est la personne la plus importante, mais on est à la croisée des chemins. On porte la mélodie, on suggère des choses. Et je voulais avoir tout ça, être nourri de tout cela, pour faire une version, je ne prétends pas qu'elle soit historique, mais en tout cas qu'elle soit la version d'un altiste, chambriste, soliste, et qui a cette expérience.
Pour vous, dans cette musique-là, cette musique des dernières années de Brahms, il y a quoi? Il y a de l'apaisement, et en même temps, on vient de l'entendre, un lyrisme passionné, une grande douceur.
Je crois qu'il y a un petit peu tout. C'est une musique qui n'a rien à prouver. Brahms, à cette période de sa vie, a tout fait, que ce soit les symphonies, trois quatuors remarquables. Il en a écrit beaucoup plus, mais il est tellement exigeant qu'il en a détruit la plupart. Donc, je dirais qu'on est un peu à la quintessence de sa pensée à la fin de sa vie. Il y a une sorte, bien sûr, de nostalgie, d'une mélancolie qui correspond bien un petit peu à mon état d'esprit, cette fameuse saudade.
Vos origines portugaises, donc.
Voilà, voilà.
Malgré tout, même si vous êtes né à Reims, français, des origines suisses, mais...
Je crois qu'on peut, oui, difficilement faire plus français que moi.
La saudade brahmsienne.
La saudade brahmsienne qui est empreinte de mélancolie, mais aussi de douceur, et parfois même d'humour, de grande poésie en tout cas.
C'est l'un des premiers, Brahms, à écrire ou à considérer l'alto comme soliste. Et on va écouter tout à l'heure le trio opus 114.
Alors, je crois que vraiment, il a pensé ses œuvres pour la clarinette. Et je crois qu'à l'époque, alors je ne dis pas qu'on joue très bien l'alto maintenant, mais à l'époque, l'alto était quand même un instrument d'accompagnement, était un instrument qui était joué souvent par des transfuges du violon. Et je pense pas que Brahms ait entendu ses sonates et ce trio au niveau où il l'espérait. Donc je crois que c'est pensé pour clarinette. Quand on regarde certaines variations du troisième mouvement de la sonate opus 120 numéro 2, c'est clairement écrit pour clarinette. Donc je crois qu'il y a une couleur à chercher quand on joue de l'alto. Cette couleur, c'est justement le fait d'avoir cette horizontalité avec l'archet. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette musique qui est plus de l'ordre de l'horizontalité que de la verticalité.
Vous disiez à l'époque que l'alto était un instrument d'accompagnement. Vous-même, depuis que vous faites de l'alto, est-ce que l'image de l'instrument a changé ou c'était déjà fait? Il y a quand même vous, il y a des grands altistes français, il y a Lise Berthaud, il y a Adrien Lamarca, il y a Antoine Tamestit.
Bien sûr.
Vous connaissez pas ces grands noms d'altistes, je sais pas, il y a 20, 30 ans
Bien sûr, l'enseignement et il y a eu toute une génération de jeunes altistes, enfin d'altistes tout court, solistes tout à fait remarquables en France et dans d'autres pays. Mais il est clair que un altiste ne peut pas être qu'un altiste soliste. Alors après, bien sûr, on cultive cette image. Mais l'alto, je veux dire, que ce soit William Primrose, grand altiste du XXe siècle, que ce soit Yuri Bashmet, ce sont tous des altistes qui ont fait du quatuor à cordes. Quand j'ai dit quatuor à cordes, c'est-à-dire qu'ils ont été au centre des choses. Et lorsque on est un altiste, je trouve, on se doit, pour construire sa carrière, faire du quatuor à cordes, parce que le quatuor, pour moi, reste tout de même, dans la musique de chambre, alors, sans aucune fausse modestie, mais une sorte d'aristocratie.
On écoute un trio quand même ?
Ah oui, avec plaisir.
Un extrait du trio Opus 114 dans sa version avec alto de Brahms, le troisième mouvement avec Miguel da Silva, notre invité ce matin, Xavier Philips au violoncelle, François-Frédéric Guy au piano. Vous me disiez en écoutant, c'est méchant ça, c'est très difficile techniquement pour l'alto, cette partition écrite au départ pour la clarinette.
Mais ça, ces arpèges sont vraiment, sonnent très facilement à la clarinette. À l'alto, oui, c'est pas évident.
Moins naturel.
C'est moins naturel. Il faut garder ce legato. Il faut bien sûr avoir une intonation plus ou moins parfaite, mais c'est un des passages, par exemple, difficiles à appréhender.
Vous parliez de l'aristocratie du quatuor à cordes. Hein. Vous avez été membre pendant les 30 ans d'existence du quatuor Isaïe. Ici, ce trio avec François-Frédéric Guy et Xavier Philips. Comment il s'est constitué, le choix de ses partenaires? Ça s'est fait comment, ce projet-là?
Alors, le choix de ses partenaires a été une évidence pour moi. Je cherchais des collègues, des amis qui portent le projet, et non pas qui accompagnent le projet, mais j'ai été porté dans cet enregistrement par le piano et par l'expérience dans Brahms de François Federighi, et puis par ce lyrisme et cette classe, je dirais, de Xavier Philips, qui, lorsque vous jouez ce trio opus 114, vous avez vraiment besoin vraiment d'être porté. C'est ce qui me vient, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Pas d'être accompagné, d'être porté.
Qu'est-ce que ça change quand on fait de la musique de chambre entre un ensemble constitué, comme vous l'avez été pendant 30 ans, et là, pour un disque, pour un projet, même si vous vous connaissez bien, est-ce qu'il y a un rapport, une appréhension de la musique différente?
On essaie de recréer ce naturel, on essaie de recréer ces respirations que l'on travaille beaucoup en quatuor à cordes. Et on essaie d'entendre le piano de François Federighi, sa main gauche par exemple, comme un second violon et un violon qui vous accompagne parfois, enfin qui vous suggère en fin de compte ce que vous avez envie de dire. Oui, on essaie de travailler dans la même direction, mais vous savez, c'est une entité sonore très différente. Jouer avec un piano, déjà, au niveau de l'intonation, vous jouez tempéré. Le piano joue juste. Enfin, à vrai dire, il joue fou, le piano. Mais vous devez jouer avec lui, en tout cas. C'est vrai. En quatuor à cordes, tout est un problème. L'intonation fait partie de l'interprétation. L'intonation fait partie de l'expression musicale. Donc déjà, vous avez ça. Après, il y a jouer ensemble. Alors, c'est vrai que, encore une fois, un instrument à cordes frappé et un instrument à cordes frotté, vous respirez ensemble, vous partez. Mais il y a une... Je dirais à un instant T précis au piano que vous n'avez jamais dans le quatuor à cordes, mais qu'il faut travailler. Donc je dirais que c'est deux mondes différents. Lorsque j'ai dit que le quatuor est une sorte d'aristocratie de la musique de chambre, ça n'y a aucune prétention là-dedans. C'est juste que les compositeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes au quatuor à cordes. Donc vous vous attaquez chaque fois à des Everest musicaux différents. Donc ça, c'est ça qui est difficile dans le quatuor à cordes. Le trio est très difficile, c'est une œuvre de grande maturité, mais tout de même, d'une manière vulgarisée, je dirais, un peu plus concrète, un peu plus simple.
Miguel da Silva, vous en avez refait du quatuor depuis 7 ans, depuis la fin du quatuor Isaïe?
Oui, tout à fait. J'ai enregistré même le quatuor de Debussy pour la troisième fois avec Augustin Dumay et Henri de Marquette dans le cadre d'un coffret Isaïe.
Cette vie de quatuor, elle vous manque parfois ou c'est vraiment une page qui est tournée et...
Alors... De jouer, bien sûr, les quatuors de Beethoven, bien sûr, ça me manque, mais bon, j'ai la chance d'enseigner dans des endroits où j'ai des formations viennent me jouer des choses, donc je suis resté, pétri de ça et nourri de cela. La vie de quartettiste, dans les relations humaines, ne me manque pas du tout,
Ça veut dire que vous ne revoyez pas du tout?
Non, pour l'instant.
Ça ne regarde pas.
Non, oui, ça c'est ma vie privée, d'accord. Enfin ma vie privée de musicien, mais non, mais vous savez, je dirais que c'est un divorce réussi. Ouais.
Il y a des jeunes aussi, vous enseignez à Genève, à Paris, mais aussi à Bruxelles. Je voudrais qu'on parle notamment de cette chapelle musicale, on en parle souvent, mais finalement, vu de France, on ne sait pas très bien, c'est quand même un énorme pôle. D'ailleurs, Jonathan Fournel, pianiste qui a été votre élève, vient de remporter le concours Reine-Elisabeth. Ce serait quoi la spécificité, la patte de cette chapelle?
Le mot qui me vient, c'est l'expérience. Pour moi, la chapelle musicale Reine-Elisabeth, c'est une expérience, c'est pas une école. On arrive là très armé, on arrive là avec un début de carrière, et on se confronte à on appelle ça des maîtres de chapelle, différents, que ce soit...
Vous êtes maître de résidence, maître en résidence.
Voilà, maître en résidence à l'alto et musique de chambre. Augustin Dumay, mon collègue et ami, est maître en résidence violon, Gary Hoffman, Louis Lortie, Avuko Yumidjan et José Van Damme. Donc, les jeunes qui viennent ici arrivent avec un travail fini, avec des idées fortes, et se confrontent à vos idées. Alors, on peut se construire... en épousant ce que vous dit votre transmetteur, votre professeur devant vous, on peut aussi se construire en opposition. C'est en cela où je dis que c'est pas une école, c'est plutôt une expérience. Et puis la grande chance que l'on a, c'est le compagnonnage, c'est-à-dire qu'on joue avec ces jeunes. Et ça, je trouve que parfois j'ai du mal à exprimer ça, mais parfois je trouve que les mots en musique ont une limite, alors que le geste musical sur scène avec eux peut être parfois beaucoup plus explicite.
Jonathan Fournel, l'un de vos élèves, donc. Le trio Bush aussi, avec lesquels vous avez joué, que j'aime beaucoup, vous aussi.
Oui, j'ai enregistré. Ça c'est des jeunes, c'est des interprètes que j'aime beaucoup. On a fait Dvorak ensemble. Et Jonathan Fournel, je vais jouer avec lui, il a le quintet de Franck dans quelques jours.
C'est votre retour devant le public d'ailleurs, public royal, devant le couple royal à Bruxelles, le quintet de Franck que vous allez d'ailleurs enregistrer. Vous avez enregistré à la Chapelle Musicale le 25 juin.
Nous allons le jouer le 25 juin et l'enregistrer en décembre. Et je dois dire que Jonathan, et surtout l'élève de Louis Lortie et d'Avoukou Mnioumidjan, mais nous avons fait beaucoup de musique de chambre ensemble, nous avons déjà joué ensemble, notamment au Louvre à Paris, un magnifique quintet de Forêt, le premier, et c'est un garçon pétri d'une grande sensibilité, d'une grande fiabilité, d'une grande culture et d'une curiosité, enfin c'est quelqu'un que j'aime énormément.
Rendez-vous le 29 juillet, Miguel Da Silva au Festival d'Evian avec David Frey et un autre quatuor, le quatuor Modigliani. Vous serez également à Lisbonne début août au Festival Verão Clásico et puis le 12 août au violon sur le sable à Royan avec justement Xavier Silips et Teddy Papavrami. Le disque Brahms vient de sortir et on se quitte justement avec vous, le trio Bush et Maria Milstein, la musique de Dvorak. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Une bagatelle de Dvorak avec le trio Bush, Maria Milstein au violon et Miguel Da Silva à l'alto, notre invité ce matin. Le trio Bush qui d'ailleurs, je le signale, sera en concert au Théâtre des Champs-Élysées, au concert du dimanche matin, le 16 janvier. Miguel Da Silva, lui, sera au Festival d'Evian le 29 juillet et le 12 août à Royan. Disque Brahms qui vient de sortir. Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.